Dans cette, je profite pour répondre à la question que Jean-Marc avait posée sur les dons de l'Esprit Saint. C'est-à-dire cette image d'une charité divine qui s'épanche, qui surabonde et qui donc produit en nous cette vraie connaissance, cette parfaite clairvoyance. À travers ça, vous avez une description des dons de l'Esprit Saint qui sont des prolongements de la charité. Les sept dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Ils appartiennent en plénitude au Christ. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Vous voyez, ils ont finalement un rôle analogue et complémentaire aux vertus humaines. On s'exerce aux vertus humaines, mais en définitive, les vertus humaines nous disposent à l'amour divin, à nous laisser mouvoir et inspirer par l'amour divin, que parce qu'il y a les sept dons de l'Esprit Saint, qui permettent une adaptation effective de nos facultés à l'amour, à la grâce. Donc, les vertus théologales, les sept dons de l'Esprit Saint qui découlent de la charité, qui sont la manière dont la charité, finalement, prend possession de nos facultés, et les vertus humaines, tout ça s'harmonise, voyez, les vertus humaines disant plutôt l'exercice que nous avons à faire, nous, pour que l'amour divin puisse circuler. Enfin, c'est pas le seul exercice, il y a la prière, il y a bien d'autres choses dont on pourrait parler. Mais l'exercice dans la manière d'agir, nous pouvons pratiquer, voyez, pour que, effectivement, la charité puisse prendre possession de notre humanité et nous faire réellement agir. Alors, il y a des personnes qui s'imaginent que vivre en étant mené par l'Esprit Saint, par l'amour, signifie nécessairement vivre par mode d'inspiration divine, un peu charismatique, vous voyez, d'avoir des grandes lumières. Or, la charité divine peut nous éclairer d'une manière, c'est comme l'amour, il ne se laisse pas toujours sentir. Et la lumière non plus ne se laisse pas, la lumière divine non plus ne se laisse pas, peut rester très discrète. Voyez ? Et quand c'est l'amour qui nous éclaire, tu vois, quand on est docile à l'amour, on est en même temps, je dirais, on est en même temps à l'écoute de sa conscience, de la raison. Je veux dire, c'est que l'homme qui est vraiment animé par l'amour divin n'est pas quelqu'un qui néglige la lumière naturelle de la raison. Cette lumière naturelle de la raison, elle m'éclaire d'autant plus que, en réalité, je suis dans cet état d'abandon, de remise de moi-même à Dieu. Et là, mes facultés humaines, bon, la lumière naturelle de la raison, c'est aussi grâce à la vertu de justice, hein, que je vais être de plus en plus m'exerçant à la justice, à l'écoute de ma conscience. Et ici, j'ai devant les yeux l'exemple admirable de Benoît XVI. Prend sa décision de renoncement en ayant interrogé sa conscience purement et simplement. Il ne dit pas j'ai reçu une illumination divine. Il ne dit pas j'ai entendu un très fort appel de Dieu. Il dit j'ai interrogé ma conscience. Et tout ça, il l'a fait dans l'amour. Mais dans l'amour, il a été vraiment à l'écoute de la raison. Il lui a dit qu'il lui a montré clairement qu'il n'avait plus les forces pour assumer. Alors là, la vertu de justice, vous voyez, l'exercice de la vertu de justice, c'est là. C'est une volonté accrochée à la vérité. Rester fidèle à ce qui est vraiment juste. Ce qui est vraiment juste, c'est que je renonce. Alors là, si on était, vous voyez, dans un calcul humain, disant, mais si je renonce, je ne vais pas pouvoir achever. Je ne vais pas pouvoir achever. De fait, il n'a pas pu achever ce qu'il voulait faire, mais je n'aurai pas le temps d'écrire ma prochaine encyclique, mais je ne pourrai pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? On lâche. On reste fidèle à la vérité. On sort du calcul. Ça, c'est même juste. Et ça, c'est l'amour aussi. Vous voyez, le fait de se laisser conduire par l'amour. Oui.
Comment trouver l'équilibre et la nécessité d'assumer ses responsabilités? Parce que ça pourrait aussi être une fuite, je ne sais pas, le 2016, mais pour nous, chacun, on se dit, on est père ou on est un exploité professionnel. Cette justice-là qu'on doit pratiquer, qui est de dire effectivement, est-ce que je suis capable de continuer, mais en même temps, j'ai une responsabilité, j'ai pris un engagement. Comment trouver cet équilibre-là?
Oui. J'ai une responsabilité, c'est parce que c'est au nom de sa responsabilité qu'il a fait sa renonciation. C'est en étant pleinement responsable pour l'Église, pour le bien de l'Église, comme il a dit, pas pour mon bien. Étant responsable, je reconnais que je ne suis plus en état d'exercer le gouvernement. Et ça, tout chef d'entreprise devrait pouvoir le dire. Président de la République aussi. Tout homme. Si la vertu de justice, vous voyez, n'est pas du tout ici en opposition avec le fait de. Non, au contraire, c'est assumer pleinement sa responsabilité ici. Hein. C'est pas. Je repense à une autre. Dans l'Écriture, on a un épisode assez étonnant. Où on voit Moïse qui jugeait le peuple hébreu dans le désert lui-même, et les gens attendaient pendant des heures, faisaient la queue devant la tente pour recevoir le jugement de Moïse. Et le peuple n'en pouvait plus, et Moïse non plus. Et c'est son beau-père Jéthro, un païen, qui vient le voir en disant, Moïse, écoute, tu t'y prends mal, il faut que tu nommes des anciens, hein, des juges qui prennent en charge les causes et qui puissent juger en tout cas les affaires mineures, et puis s'il y a un problème, remonter jusqu'à toi. Et Saint Jean de la Croix commente en disant, comment se fait-il que Dieu n'ait pas montré à Moïse qu'il devait faire cela alors qu'il lui parlait face à face dans la tente? Réponse, parce que cela relevait de la droite raison. Et que Dieu ne communique pas par mode charismatique, par mode d'illumination, comme ça, des choses qui relèvent de l'écoute de la droite raison. Parce qu'il aime que l'homme soit fidèle à la vérité de sa conscience, et d'une conscience éclairée, par la conscience, c'est la raison pratique, c'est l'intelligence pratique, qu'on reste fidèle à cette raison. Donc, vous voyez, moi qui suis du renouveau charismatique, et qui était témoin de beaucoup de grandes erreurs de discernement qui ont été faites parce qu'on se fiait à un mode charismatique d'agir en négligeant un peu la simple raison. Or, l'amour ne néglige pas la raison. Les vrais mystiques sont des hommes rationnels, au sens de fidèles à la raison. Qui écoutent leur raison. Des hommes droits, de conscience. Là-dessus, il y aurait beaucoup à réfléchir. J'entendais récemment le témoignage par rapport à une communauté où on a fait trop de dépenses parce qu'on se disait, de toute façon, c'est pour l'évangélisation et le Seigneur pourvoir. Non, le Seigneur nous demande de savoir calculer dépenses, profits, et puis si on n'a pas l'argent, on ne dépense pas. Vous voyez ? Ben oui, mais c'est comme ça qu'on peut finalement aboutir vraiment à une catastrophe, parce qu'on dira au Seigneur, mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu ne nous as pas donné l'argent au moment où il fallait, mais je vous ai donné la raison.
Oui, je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure, et je voudrais donner un autre exemple auquel les parents d'ados sont évidemment tous confrontés dans le monde d'aujourd'hui. Il y a quelques années, mes enfants étaient plus jeunes, on habitait Toulon, Laurence vous l'a dit tout à l'heure, j'étais parti souvent. Il y a la question, si vous voulez, de la protection de nos ados. À l'époque, la problématique c'était la drogue à Toulon, on savait qu'il y avait des dealers à la sortie du collège et du lycée, privés l'un et l'autre, le collège et le lycée, donc... Les leaders étaient à la sortie, vous avez compris que c'était là qu'il y avait le pognon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est un papa, qu'on est absent souvent et qu'on a des enfants qui vont dans ces écoles-là ? D'abord, on a la trouille, évidemment. Et est-ce qu'on les met dans des établissements plus protégés ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? J'en avais parlé à l'époque à ma grande sœur Anne-Claire, que beaucoup connaissent ici, et elle m'avait dit, elle m'a fait une réponse charismatique. Elle m'avait dit, l'important c'est que Laurence et toi vous vous aimez. C'est une réponse charismatique qui n'est pas fausse malgré tout, hein. Qui n'est pas fausse malgré tout, parce que l'essentiel est peut-être là. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On a fini par rien faire, ce qui était sans doute la solution la plus facile. C'est le sens de la plus grande pente. Donc, je ne dis pas que j'ai fait un choix intelligent. Hein. Je dis que j'ai fait plutôt une absence de choix. Entre la prudence, la vérité, la prudence, là, elle était sacrément mise à... Elle était mise en question. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas non plus élever ses enfants dans des prisons. Il faut les élever avec le monde tel qu'il est. Et on ne peut pas les préserver complètement de tout. Il faut bien un moment ou un autre qu'ils se confrontent à la réalité du monde tel qu'il est. Je n'ai pas de réponse. Je rebondis un peu sur la réflexion qui était ici tout à l'heure sur la responsabilité. Je n'ai pas de réponse. Et je laisse le père compléter si lui il a une idée.
Bon courage.
Non, il me revenait simplement que la peur est mauvaise conseillère, et que Dieu ne nous inspire pas par la peur. L'inquiétude, dit saint François de Sales, est ce qu'il y a de plus grave après le péché, parce qu'elle est la source de beaucoup de péchés. Et donc, tant qu'on est dans cet état de peur, d'inquiétude, et qu'on n'arrive pas à retrouver, je dirais, dans notre cœur profond, à se rebrancher sur la vie théologale, c'est-à-dire sur notre vie d'amour, mais aussi la vie d'amour, c'est aussi une vie de foi et d'espérance. Ça, c'est inséparable. L'amour espère tout, croit tout. Et donc, c'est en réveillant cette foi, cette espérance et cet amour, d'abord, hein, au sens où saint Paul dit, dans toutes vos difficultés, en tout recourez à la prière, à la supplication, ne vous angoissez de rien. C'est pas évident, mais c'est sûr que tant qu'on est en état d'angoisse, on ne peut pas y voir clair. Donc, ne vous angoissez de rien, dit saint Paul, en tout cas, de ne pas nourrir par des pensées l'inquiétude, pas s'inquiéter, être inquiet, mais au moins ne pas s'inquiéter soi-même par les pensées, et de recourir à la prière, les supplications. Saint Paul dit même dans un esprit d'action de grâce. Ça, c'est encore plus difficile. On rend grâce pour le bien que Dieu peut tirer du mal. Déjà, dans une foi aveugle, vous voyez, que Dieu ne peut permettre le mal que pour un bien plus grand. Devant la situation actuelle de la France, rendre grâce pour le bien que Dieu saura tirer de ce mal. Ne pas rester dans un constat de décadence évident, mais regarder plus loin. La charité croit tout, espère tout. Ça aussi, vous voyez, c'est des dispositions, alors là, qui ne sont pas liées aux vertus humaines, mais à l'exercice de la foi et de l'espérance, vous voyez, qu'il faut pouvoir nourrir en nous, de telle manière que, ensuite, saint Paul dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et à tout raisonnement, gardera vos cœurs et vos pensées dans Christ. » Vos cœurs, vos sentiments et vos pensées dans la lumière du Christ. Vos cœurs dans les sentiments du Christ et vos pensées dans les pensées du Christ.
Mais ce qui n'est pas évident, c'est de gérer après aussi le combat spirituel, parce que plus on se met en disposition comme ça, plus il y en a un qui est malin et qui vient quand même attaquer.
Personne me dit qu'il faut gérer le combat spirituel. Le combat spirituel, il est par rapport à la foi. Le démon, il attaque à la base de tout, et la base de tout, c'est la foi. Donc, si la foi défaille, c'est évident qu'à ce moment-là, je dirais, tout l'édifice s'écroule. Hein. Comme disait Jean-Paul II, le démon, c'est le génie du soupçon. Oui, mais avec cette loi, c'est pas possible. Mais Dieu est le plus fort. Dieu est le plus fort. Tout est possible à Dieu. Et de retrouver tout de suite cet élan d'une confiance aveugle en la toute-puissance divine qui ne peut permettre le mal que pour un bien plus grand. Parce que vous voyez, j'entends parler de chrétiens qui sont prêts à passer à la violence, hein, parce que sur fond, c'est l'énergie du désespoir. Mais l'énergie du désespoir, c'est pas l'énergie de la charité divine. Il faut savoir quel combat on mène. Parce que certains disent oui, mais si on n'a pas des actes violents, ils ne vont pas comprendre. Non, mais il faut savoir quelle lumière on veut donner. Si on veut éclairer par la lumière de la charité divine, ou si on mise sur autre chose que la charité divine. Alors, si on mise sur nos propres forces, on mène un combat humain. Mais est-ce qu'on a affaire à un adversaire humain? Il n'y en a qu'un qui mène le jeu. Prince des ténèbres. Donc, pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper d'adversaire, il ne faut pas se tromper d'armes non plus. Vous voyez, c'est là où la prudence humaine qui pourrait nous dicter, parce que j'entends parler de gens qui conseillent en disant oui, cette manif, elle devrait être plus musclée, il faut pour que le gouvernement réagisse, tout ça. Alors, les gens sont là avec leur prudence humaine. Écoutez, Saint-Vincent de Paul. Ce bienheureux m'écrit Saint-François de Sales. C'est Saint-Jean de Chantal qui témoigne. Ce bienheureux m'écrivait un jour, je ne laisserai jamais sortir de mon esprit, Dieu aidant cette maxime, il faut nullement vivre selon la prudence humaine, au sens d'une prudence simplement humaine. C'est-à-dire, on fait abstraction de la grâce, on fait abstraction de Dieu, et on agit comme si tout dépendait de nous, selon nos raisonnements humains et nos calculs humains. Mais selon la foi de l'Évangile, portée par la foi et l'espérance. Voyez ? Car la prudence humaine, excusez-moi l'expression, et ça peut-être vous retiendrez, c'est Saint François de Sales, la prudence humaine est une véritable de niaiserie. Ben moi je dis que vouloir passer à la violence, c'est de la niaiserie. Une véritable niaiserie. Il n'y en a qu'un qui sera vainqueur dans tout ça, c'est celui qui cherche à nous pousser à bout, à nous faire répondre au mal par le mal. Donc il n'y a qu'une seule victoire, c'est celle de l'amour divin. Il faut que ce soit un amour divin, pas une mollesse et une sorte de gentillesse humaine. On n'est pas gentillesse humaine, c'est pas... Vous voyez, des fois, on est un peu énervé par l'attitude de certains catholiques parce qu'ils sont un peu mous bonasses comme ça. Or, la charité divine, elle est ferme, elle est forte. Elle est, elle me donne de l'audace. Mais c'est autre chose que cette crispation que provoque la colère ou le désespoir, qui fait que, s'appuyant sur nos propres forces, on fonce dans l'obstacle sans parier sur l'amour. Sans prendre conscience qu'en dehors de Dieu, nous, dans le combat qu'est la vie, on est forcément perdant. On n'a qu'une seule victoire, c'est celle de la croix. Alors ici, je rappelle le dernier message de Benoît XVI, ce n'est pas le pouvoir mondain, le pouvoir selon le monde, qui sauve le monde, Benoît XVI, audience pour le carême, ce n'est pas le pouvoir mondain qui sauve le monde, mais l'humilité, la croix et l'amour. Benoît XVI, toute sa vie témoigne de ça. On a un nouveau pape qui lui-même nous invite à ne pas céder au découragement, au pessimisme, mais à croire jusqu'au bout à la charité, à la bonté, à la tendresse. Et tout ça, il faut que ce soit vécu divinement, vous voyez, et pas une sorte de moralisme romantique, de machin, petite fleur, quoi, de rêverie d'adolescent. On n'est pas là. On est vraiment pour entrer dans les profondeurs du combat spirituel, dans la lumière du mystère de la rédemption. Je vais parler davantage de ça cet après-midi. Ça répond un peu à la question, vaguement. Non, ce que je veux dire, c'est que l'action juste par rapport aux enfants ne peut venir donc qu'une fois qu'on a retrouvé la paix, des règles du discernement spirituel, qu'on est sorti de cette crispation nerveuse, inquiétude humaine, et que dans la paix, on peut à ce moment-là vraiment nous inspirer s'il y a des actions concrètes à poser.
Je reviens sur ce que m'avait dit ma sœur Anka, parce que j'ai vu des réactions qui laissaient penser que c'était un choix facile ce qu'elle disait. Non, c'est pas un choix facile ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle voulait dire, c'est en tout cas ce que j'ai compris et ce que je retiens aujourd'hui, c'est que on n'élève pas des enfants avec une morale d'abord, on les élève d'abord avec un amour. Parce que si on les élève d'abord avec des règles morales, tôt ou tard, ils les violeront. Si on les élève d'abord avec un amour, alors ils comprendront les règles morales.
Les élever avec un amour, c'est rayonner la charité divine. Pensez au musulman qui s'est converti en voyant les mains d'une religieuse. Quand tu vois la charité, tu vois la Trinité. Dit saint Augustin, et Benoît XVI a repris plusieurs fois cette expression. Tu vois la charité en acte, tu vois la Trinité, qui est amour. Donc les élever dans l'amour, c'est les élever dans la vision de Dieu. C'est leur donner d'être en contact avec le mystère de Dieu. Et donc en fait, de trouver sens à leur vie. Progressivement entrer dans une connaissance intérieure de Dieu, qui vivent leur vie en sachant au fond de leur cœur que l'amour avec un grand A existe.
Et s'ils chutent, ils retrouveront.
Et c'est seulement cette connaissance de Dieu, du mystère de Dieu, cette perception intérieure de Dieu qui donne sens au commandement. C'est la sagesse qui sauve. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. On fait voir les choses dans la lumière de Dieu. C'est pour ça que dans l'Écriture, en fait, toute l'éducation est centrée sur la question de la sagesse. Éduquer, c'est transmettre la sagesse. Et nous, on transmet des connaissances, du savoir, des connaissances, un savoir morcelé, comme dirait Benoît XVI, parce qu'on veut que les enfants soient armés intellectuellement, mais il manque l'essentiel qui est la sagesse. Qui donne le sens à toutes les connaissances. Comme dirait Benoît XVI, on peut courir à grands pas et avec une grande intelligence dans la mauvaise direction. Il vaut mieux courir à petits pas en étant pauvre intellectuellement, mais dans la bonne direction. L'homme le plus accompli, au niveau des qualités, au niveau des vertus, s'il lui manque la sagesse, si l'écriture sera tenue pour rien. Dans, voyez, dans le dialogue, dans les conseils, dans tout ce qu'on peut faire, il faut avoir conscience, donc, on l'a dit, c'est Mère Teresa qui le dit, enfin, de mémoire, hein. C'est pas, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous disons, mais ce que Dieu dit à travers nous. Il faut être conscient qu'il y a une vérité fondamentale, c'est que le cœur parle au cœur. Ce que je porte en moi-même de plus intime, est plus intime de l'autre. Et donc là, je rebondis sur le témoignage, mais tout touché par l'amour, notre amour de couple. Parce que si, au moment où vous parliez, Rose, vous étiez dans cet amour de couple, même si vous avez parlé d'autre chose, c'est ça qui a parlé. Donc, quoi que je dise, quoi que je fasse, ce qui a le plus d'impact, c'est ce que je suis intérieurement. Au niveau de la lumière, voyez. C'est ce qui va marquer la personne. Et l'aider réellement à avancer dans sa vie. Moi, j'ai été très frappé avec l'élection du nouveau pape de voir que c'était sa personne elle-même qui touchait. Il a dit des mots forts et tout ça, mais on sent bien qu'on est attiré par la personne elle-même avant d'être attiré par ce qu'elle dit. La manière dont ma personne parle au cœur de l'autre, ça me dépassera toujours. Hein. Donc vous voyez, on se fatigue beaucoup à calculer ce qu'on pourrait faire pour les autres. On devrait se préoccuper d'abord d'être. Primat de l'être sur le faire. C'est vite dit, hein. On est tous d'accord, il y a un primat de l'être sur le faire, mais dans la réalité concrète de notre vie, on ne vit pas ce primat de l'être sur le faire. On n'y croit pas assez. On ne croit pas assez que, pour nous, le primat de l'être sur le faire, c'est le primat du cœur et d'un cœur uni à Dieu sur tout ce que l'on peut faire ou dire. Et là, vous retrouvez toutes les paraboles sur le royaume. Le royaume est comparable à un grain de sénévé, il est comparable à du levain dans la pâte, il ne se laisse pas observer, il est au-dedans de nous, il est caché, c'est la réalité la plus petite, c'est le grain le plus petit, c'est insignifiant aux yeux du monde. Et pourtant, c'est cette réalité-là qui est la plus forte. Donc, il y a constamment une conversion par rapport à notre vision du réel. Ce qui est invisible, ce qui est caché, ce qui est secret, est plus fort, est plus puissant, est plus réel que le réel extérieur. Le Concile a des paroles très fortes par rapport à ça. Il dit, par exemple, que la source de tous les déséquilibres qu'il y a dans le monde sont dans le cœur de l'homme. Alors comme on vit dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de l'intériorité, du primat de la vie intérieure, pour parler comme Jean Paul II, en réalité on vit dans un monde qui est de plus en plus devant l'évidence, qui contrôle rien, qui maîtrise rien, et tous nos efforts pour essayer d'améliorer les choses sont de plus en plus stériles. J'ai envie de dire que notre société vit une grande humiliation collective. Nous-mêmes, nous comme chrétiens, nous devons vivre cette humiliation collective du monde moderne qui a voulu s'élever lui-même sans Dieu, la vivre consciemment comme une épreuve purificatrice. Oui, tout s'écroule parce que nous avons construit sans chercher d'abord le royaume de Dieu, sans mettre Dieu au centre. Tout s'écroule. Et de cet écroulement, de sortir une église, d'abord l'église, plus humble, plus pauvre, plus confiante en Dieu seul. Si nous, nous acceptons ce chemin d'humilité, ben on entraînera les autres. Parce que les autres, ils sont comme nous. Hein. Ils vivent le même combat spirituel que nous. Combat contre le démon qui pousse à l'orgueil, à l'autosuffisance et qui aveugle. Et nous, la différence, c'est qu'on vit ce combat consciemment. Alors que d'autres sont enfermés dedans. Notre responsabilité, c'est à travers l'épreuve, à travers, je dirais, cette décomposition progressive, comme a dit Benoît XVI, de notre société, de trouver un chemin de sainteté, de purification. De telle manière que la lumière brille et qu'on ouvre la voie à une civilisation fondée sur le Christ, comme dirait Jean-Paul II. À une nouvelle culture, à un nouvel art de vivre, à une nouvelle civilisation fondée sur le Christ.
Oui, vous dites qu'on entraînera les autres. Moi, c'est quelque chose qui me frappe, le fait que l'exercice des vertus soit vraiment quelque chose de contagieux. Je pense que c'est vraiment important de s'en persuader. J'ai été très touchée, moi, il n'y a pas très longtemps, d'aller voir mon grand-père qui est entré dans une maison de retraite. Il est complètement grabataire, il ne marche plus, il ne peut plus manger tout seul, il ne parle plus. Et j'ai vu un jeune soignant le caresser, et là je me suis dit, bah, c'est ça l'amour, quoi. Ils avaient une patience avec les personnes âgées incroyables. Et quand je suis rentrée chez moi, moi qui pensais que c'était impossible d'être patient avec des jeunes enfants entre 6h et 8h du soir, je me suis dit, mais ce personnel soignant qui est avec des personnes âgées, tous quand même beaucoup très ingrates à gérer, qui se plaignent tout le temps, qui voilà, de voir leur patience, je me suis dit, bah, la patience est possible, et vraiment ça m'aide au quotidien. Et par rapport aux, je pense par rapport aussi à ce que tu disais, Michel, le fait de voir ses parents exercer justement la patience, bah, on remarque les soirs on est patient, nos enfants sont plus patients, ça se propage.
Alors, je voudrais terminer en insistant donc sur cette vertu de justice qui consiste finalement à s'ajuster à la volonté de Dieu, s'ajuster à la loi morale, s'ajuster à ce qui est vraiment juste, avoir cette disposition finalement d'obéissance à la vérité, qui devrait en fait nous aider à rester dans le moment présent en collant à notre devoir d'État. C'est-à-dire, en toute situation, qu'est-ce qu'il est juste de faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire en conscience? Et en fait, avec chaque moment a son devoir. En toutes circonstances, nous devons chercher à coller à la volonté divine. En nous comptant notre raison, en nous mettant à l'écoute de notre cœur profond, aussi en regardant la réalité, parce que Dieu nous demande d'obéir aux circonstances, aux choses, il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes à faire. Qui fait qu'en obéissant aux choses, on obéit à Dieu. Tout ça dans une attitude d'ouverture, d'accueil, qui fait qu'on se laisse conduire. Et Dieu donne la lumière pas après pas. De faire les choses les unes après les autres dans une journée, dans le bon ordre. Se posant toujours la question, la volonté présente de Dieu pour moi. Et voyez que l'homme juste qui s'ajuste à Dieu, comme ça, en cherchant d'abord à être fidèle à la, je dirais, à ce que sa conscience éclairée lui dit. Ben, il lâche prise. Il lâche prise. Parce qu'on fait les choses les unes après les autres, on ne sait pas où ça nous mène. C'est Dieu qui le sait. Il y a une chose, on prépare une autre. C'est Dieu qui mène le jeu. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, je t'en confierai de plus grande. Ça rejoint le témoignage d'Anne, hein, ici. Première chose qu'elle doit faire, aller au volant, c'est de respecter le code de la route. Premier devoir d'État. Moi, la première chose que je dois me faire, c'est de me coucher à l'heure, le soir. Hein? Le respect du corps, de sa santé. On se laisse guider par ce sens de ce qui est vraiment juste devant Dieu, hein, sans négliger donc la raison, et en étant dans l'écoute en même temps des inspirations divines qui peuvent nous être données aussi, hein, des circonstances à travers lesquelles Dieu nous parle. Et puis comme ça, on vit comme un enfant, hein, parce qu'en fait, un pas, on appelle un autre. Et une petite chose, on prépare une grande. Et en étant fidèle aux petites, on se prépare à être fidèle aux grandes. Il y a tout un aspect, vous voyez ici, de vivre le moment présent en faisant donc les choses les unes après les autres. Et sans négliger les petites, parce que ce qui compte, c'est pas la grandeur des choses que nous faisons, mais le rayonnement de l'amour à travers même des petites choses. Moi, ce qui m'a le plus frappé, je redis, dans quand j'ai rencontré Jean-Paul II, j'ai assisté deux fois à sa messe privée, c'est la manière dont il s'est habillé pour se préparer à la messe. Parce que c'était parfaitement juste. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant touché. Mais il devait être parfaitement présent à ce qu'il faisait, et le faire parfaitement dans l'obéissance à Dieu, parce que moi, ça me marque encore. Le geste par lequel il a notamment mis un tissu qu'on met autour du coude, vous voyez, j'ignore même le nom, la mitte qu'on mettait dans le temps. La mitte, oui, qu'on mettait dans le temps. Il a fait ça. Il devait être vraiment... Pour moi, ça reste une image... de bien faire les petites choses, enfin d'une qualité d'amour dans les choses qui... Alors, on ne sait pas peut-être, vous voyez, on parle beaucoup à quelqu'un et puis en fait c'est un tout petit geste qu'on va faire sans penser à dire quoi que ce soit, mais simplement parce qu'on est bien dans le moment présent et qu'on sent qu'il va toucher l'autre. Ça, moi, pour moi, ça demanderait une conversion profonde de vivre vraiment comme ça, parce que je suis comme prêtre constamment dans une priorité en disant, bon ben, perdons pas de temps avec ça, parce qu'il y a l'évangélisation, il y a l'apostolat, ça prime. En fait, quand on regarde les choses sous l'angle de l'amour, il n'y a rien qui prime. Tout est occasion d'aimer. Tout est matière à l'amour.
On demande surtout d'être présent.
Oui.
Et Jean-Paul II, en mettant sa mitre, était simplement très présent.
Oui, être très présent parce qu'on croit à la valeur des actions petites aussi, avoir foi que tout a du prix. Ce n'est pas à nous de mesurer ce qui vaut la peine d'être bien vécu et ce qui ne vaut pas la peine et qui fait qu'on néglige. Ça, c'est du temps perdu pour l'amour. Et du temps perdu pour l'amour nous affaiblit. Alors qu'en exerçant la charité en tout, en s'exerçant à l'amour en tout, eh bien, évidemment, on progresse et le feu de l'amour est de plus en plus brûlant. Je prends un exemple simple pour moi. voyez, je suis en train de travailler, je veux dire, je peux voir quelque chose. Quelqu'un m'appelle au téléphone, me dérange. Aussi, c'est pour me raconter des choses. Il y a des personnes qui m'appellent régulièrement pour raconter toujours les mêmes choses. Enfin, je pense à une notamment. Bon. Toujours les mêmes plaintes, les mêmes récriminations, tout ça. Alors pour moi, je te raccrochais tout de suite. Allez, alors là, on vit la chose comme un dérangeant par avoir une action qui est beaucoup plus importante, tout ça. Mais en réalité, si j'étais sage, je prendrais la chose des mains de Dieu et je vivrais l'exercice de l'écoute jusqu'au bout, quitte à dire au bout de 5 minutes, je dois raccrocher. Pas un problème. On peut être patient et ferme en même temps. Mais vivre l'exercice jusqu'au bout, en exerçant les vertus. Et de fait, quand j'y arrive, je vois que j'ai plus de lumière ensuite pour faire le travail que je fais. Ben oui. Ben oui. Une action prépare une autre. Le Seigneur nous éprouve dans notre fidélité à l'amour.
On va t'appeler
souvent. Ah oui, oui, alors là, j'ai encore des progrès à faire. Le téléphone, c'est ma croix. On va m'appeler souvent. Oui, je rajoute une chose. Vous voyez, ce discernement du devoir présent pour que soit la charité divine qui nous inspire rester dans cette vertu de justice qui fait que nous cherchons à nous ajuster constamment à notre devoir, à la volonté de Dieu, c'est important l'obéissance. Je veux dire à l'autorité légitime. Alors tous nous sommes dans des relations où à un moment ou à un autre on est amené à obéir à une autorité légitime. Moi j'ai la grâce d'avoir un curé qui me permet d'obéir. Ouais. Non mais je dis ça sérieusement, c'est plus sanctifiant pour moi d'être vicaire que d'être curé. Si j'étais curé, je ne sais pas comment j'assumerais avec ma santé et mes pertes de mémoire.
Ben, les paroissiens, mais donc je vais obéir.
Mais c'est évident qu'un curé doit aussi obéir, il obéit à son évêque et tout ça. Mais très concrètement, moi je dépends beaucoup plus d'un autre en étant vicaire, c'est-à-dire que je suis amené à remettre mes projets, à mon curé constamment. Donc il y a un lâcher-prise, vous voyez, dans l'autorité légitime. Donc de parier sur l'autorité, sur cette obéissance à l'autorité, c'est sachant que toute autorité légitime vient de Dieu, et pas parce qu'on a confiance en l'humain, mais parce qu'on a confiance en Dieu, qui à travers cette autorité légitime nous éprouve, nous purifie, nous amène à des renoncements. Dans le mariage, parier sur cette obéissance, c'est une clé pour sortir de certaines impasses. Se soumettre à l'autre à travers l'écoute. Il y a une autorité propre du père de famille qu'il faut savoir redécouvrir. Mais rien n'empêche un père de famille d'écouter aussi son épouse. Mais il y a une autorité propre de l'homme qui est importante à redécouvrir, ceci dit. Voyez, mais on peut parler d'une soumission mutuelle aussi, dans le sens d'une écoute mutuelle. Dans le sens d'une écoute mutuelle. En tout cas, c'est toujours bien d'essayer de discerner quelle est l'autorité légitime. Des fois, on demande conseil, on va suivre l'avis d'un tel qui n'a aucune autorité pour ça. Et puis on néglige la personne qui a autorité pour ça. Savoir qui a autorité, pourquoi. Quand c'est dans l'ordre de la confession, c'est le confesseur qu'il faut consulter. Quand c'est dans l'ordre professionnel, vous savez bien qu'il faut consulter. Mais tout ça, le vivre dans la foi et dans un souci de justice. Et le respect de l'autorité légitime. C'est pas facile quand on a le gouvernement qu'on a, de voir l'autorité de Dieu. Hein? Mais là où il exerce cette autorité sans que cette autorité soit contraire au commandement divin, parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, donc là où cette autorité est exercée sans que ce soit contraire à la loi de Dieu, il faut s'y soumettre. Quand elle est contraire à la loi de Dieu, c'est un devoir de résistance, évidemment. Moi, je suis tout à fait prêt à rentrer dans le maquis, c'est pas mon problème, je suis plutôt de ce genre-là. Mais il faut garder la parole de saint Paul, hein, toute autorité légitime se soumettre à l'autorité légitime, se soumettre à Dieu, à qui les impôts, à qui les taxes, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bienheureux sont les obéissants, car Dieu ne permettra jamais qu'ils s'égarent. C'est une protection. Protection contre notre volonté propre, protection contre notre attachement à nos projets, protection contre notre orgueil, le chemin de l'humilité. Elle est dans un discernement, l'autorité légitime. Je donne un dernier exemple. Jean-Paul II, je vous l'ai déjà raconté ça. Quand il était tout jeune prêtre, une famille catholique polonaise qui avait adopté un enfant juif, que sa maman... Ma mère juive avait confié en leur demandant de mettre en contact avec une tante si elle-même disparaissait. Et ils n'ont retrouvé personne de cette famille. Ils demandaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut le baptiser? Et Carole Wojtyla a répondu, non, il a demandé qu'il respecte l'autorité. Le devoir, c'était qui avait autorité sur cet enfant des parents. Manifestement, il voulait qu'il soit éduqué dans la religion juive. Donc, il a demandé de faire éduquer cet enfant dans la religion juive.
Il est devenu rabbin.
Il est devenu rabbin à Jérusalem et il a témoigné. Non, à Jérusalem. Et il a témoigné lors du voyage de Jean-Paul II à Jérusalem. Il a témoigné. Et ça, vous voyez, finalement, ce qui a évangélisé, ça a été ce respect de la justice. Et de l'autorité dans l'obéissance à la loi. Hein. Tandis que s'il avait cédé à un calcul humain en disant mais comment priver cet enfant de la grâce du baptême, ben, ça aurait été une catastrophe. Parce que ça aurait été un acte bien intentionné sur fond de non-justice et de non-obéissance à la conscience et de non-respect de l'autorité des parents. Vous voyez ? Faire très attention à ça.
Un témoignage. Je voulais rendre justice à mon fils aîné, Kim Bluff, parce que récemment, on parlait de morale sexuelle, et il disait qu'il ne comprenait pas forcément tout, mais que il comprenait pas forcément tout de ce que disait l'enseignement de l'Église, mais qu'il suivait par obéissance. C'est un garçon qui actuellement est doctorant, donc si vous voulez, intellectuellement ça va bien pour lui. Il n'a absolument pas été élevé par nous sur le mode moral et d'abord, vous avez compris. Là où il me bluffe, c'est que moi qui ai été élevé sur le mode moral, je n'ai pas été capable sur ce point-là de suivre exactement l'enseignement de l'Église.
Bien. Écoutez, je crois que la raison me dicte d'arrêter là. J'ai pas besoin qu'un ange vienne me parler. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.